Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez Le Soin d'après. Et bienvenue dans cet épisode spécial du Son d'après. Je suis Louise Petrouchka et comme toujours, je suis accompagnée de mon meilleur binôme. J'ai nommé Clément. Bonjour.
Salut, salut.
Comment ça va ?
Bah écoute, ça va.
Ça va très bien.
On est très contents.
Car une fois de plus, nous recevons un invité et ce mois-ci, on est ravis de recevoir le seul, l'unique, Yanis. Salut.
Salut. Ça merci pour l'accueil.
Bah avec plaisir.
Ça va très bien, merci.
Ça fait de nombreux épisodes qu'on évoque ton podcast, les 6 sons de la semaine. Je vous préviens tout de suite, je vais faire pas mal de fois l'erreur, le son d'après, les 6 sons de la semaine.
Il y a un rapprochement fatal. On a fait tous les deux l'erreur en préparant l'émission.
Voilà. Vous êtes prévenus maintenant. Et on sait qu'on a de nombreuses affinités musicales en commun. Et on est très contents de te recevoir dans le son d'après.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu as une envie de présentation plus que les 6 sons de la semaine ou tu...
Alors non, puisque je ne suis pas un professionnel de la musique, mais un mélomane. Et j'aime partager les la musique que j'aime.
C'est des points qu'on a en commun, en tout cas
c'est déjà
évident.
Pas mal.
Ouais,
et puis avec un peu de chance, peut-être que dans l'avenir je finirai par travailler dans ce milieu, mais pour l'instant j'en reste extérieur.
Très bien. Et vous pouvez suivre Yanis sur les internets @YanisYé.
Exactement.
Voilà, ça sera dans les notes du podcast.
Comme la chanson de Usher.
Bien sûr. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer le concept de ce podcast ?
Bien évidemment, le son d'après, c'est un podcast de découverte musicale où toutes les 2 semaines dorénavant, on ramène 4 sons qu'on kiffe en ce moment, dans le but éventuellement de vous le faire découvrir et puis voilà, d'échanger autour, de vous parler un petit peu de la vie des artistes. Puis voilà, dans la finalité, venir remplir vos playlists.
Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, on a demandé à Yanis de ramener 2 morceaux qu'il kiffe en ce moment. Et nous, on a chacun ramené 1 morceau à présenter à Yanis. Peut-être lui faire découvrir, on ne sait pas. On va voir ça. Parce que Yanis a quand même une énorme culture musicale, donc c'est le suspense.
Ouais, on va
donc
je
passe beaucoup de temps à chiner, mais on verra.
Ah, on va
je
en
découvre
parler,
quand même
justement.
Plein de choses avec votre podcast. Je suis un auditeur fidèle et...
Ça fait plaisir.
Et c'est toujours qualitatif.
Eh bien écoute, on commence avec ton premier morceau. Tu nous as ramené un morceau de Pierre Barou.
Exactement.
Tu veux nous dire quelques mots avant qu'on l'écoute ?
Ouais, je peux dire comment je l'ai découvert.
Ouais. Mm-hmm.
C'est que moi je suis un très grand amateur de bossa nova, de samba et musique brésilienne de manière générale. Mm-hmm. Et Pierre Barou, c'est un Français qui a fait sa carrière dans les années 80, je pense. Et qui en fait a été très inspiré par le Brésil. Il a été au Brésil pendant longtemps, il a rencontré les Vinicius, les Jobim, etc. Et il a fait plein d'adaptations de chansons brésiliennes en français.
Mm-hmm.
J'ai notamment beaucoup écouté sa version de Água de Beber, qui s'appelle Ce n'est que de l'eau en français, qui est formidable. Et donc j'avais ce gars dont j'aimais bien la musique, et j'ai décidé de chiner un peu ce qu'il faisait derrière. Et en fait, je suis tombé sur un album qui était un peu difficile à trouver avant très récemment, puisqu'il était réédité. Il était enregistré au Japon. Il s'appelle Le Pollen. Et dans cet album que j'ai écouté, je suis tombé sur cette chanson qui s'appelle Boule qui roule et qui m'a vraiment touché. C'est une chanson où ça parle français et japonais. C'est doux, c'est beau. Ça m'a vraiment fait vibrer en l'écoutant.
Trop bien.
Et écoute, ça donne très envie d'écouter.
C'est parti.
J'ai rencontré des yeux dans un bar d'amoureux, des yeux parmi tant d'autres m'ont souri. J'avais besoin d'amour, je leur ai fait la cour, ils se sont fermés dans mon lit. Oui, et tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. Tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini. tout ça, ça se passe quelque part dans l'espace, sur une boule qui roule dans l'infini.
Qui roule de Pierre Barou, premier choix de Yanis.
Exact.
C'était trop doux.
Grave.
J'adore. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément ?
Bah, moi déjà, je connaissais pas, pour être honnête, tu vois.
Moi, je connais un morceau de Pierre Barou, et en fait, c'est marrant que t'en parles, parce que tu dis il a passé beaucoup d'années au Brésil et tout. Moi, je connais Samba Sarava.
Oui. C'est son tube principal.
Où il dit qu'il est le plus brésilien des Français. Et du coup, ça me fait rire. Mais du coup, c'est intéressant d'écouter ce morceau qui n'a en effet rien à voir avec la musique brésilienne à la base. Quoi.
Mais il me semble que c'est un peu dans sa fin de carrière qu'il a un peu fait ce switch avec le Japon.
Okay.
Où il a passé beaucoup de temps, il s'est marié avec une japonaise. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait une fille qui faisait de la musique, qui est franco-japonaise, qui mélange du coup les deux cultures. Je me rappelle plus de son prénom.
Ok, on ira chercher. On mettra dans les notes du podcast.
On va essayer de chercher ça dans les notes du podcast.
Mais je pense que c'est un peu une sorte de deuxième arc de sa vie après toute sa passion pour le Brésil. Mais c'est vrai que le Brésil et le Japon, en plus, c'est deux cultures, je pense, qui peuvent bien fasciner un Français.
Ouais.
Bah, en tout cas.
Encore aujourd'hui, c'est mon cas, en fait, personnellement.
Ouais, c'est ça. On en parlera. En plus, moi, on aura l'occasion d'en parler aussi dans mon choix du jour. Mais si, moi, quand même, je trouve que dans sa manière de chanter, on ressent les influences, tu sais, un petit peu, je trouve, des chanteurs brésiliens.
Ouais, dans la douceur que
ça
peut apporter.
Exactement, c'est
ça. La saudade.
Ouais,
tout à fait.
Avec mon accent terrible.
La fameuse. Mais tu sais, moi, ça m'a fait penser un peu dans l'esprit. Alors, la voix n'est pas du tout la même et tout, mais un peu à Nougaro.
Oui.
Dans le truc un peu poète qui fait des jolies images et tout. Mmh. Et en même temps, tu vois, genre qu'il va chercher des inspirations un peu partout. Nougaro, pareil, il était pas mal. Il a repris quelques trucs plutôt salsa, je pense.
Ouais.
Du coup, je trouve ça assez cool. Quoi.
Louise Petrouchka qui cite des chanteurs de variété française.
Bien sûr.
Franchement, je suis impressionné.
Ah oui, ouais, je sais.
T'as toujours dit que c'était pas.
Alors, j'en ai pas beaucoup.
C'était vraiment pas ta culture, quoi. Donc, c'est rigolo.
J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. J'ai Nougaro et William Scheller.
Bah, c'est déjà
de noms sympas. De belles refs.
Mais c'est vrai que c'est aussi un effort que j'ai voulu faire parce que je pense que souvent on a tendance dans notre consommation de la musique à pas trop écouter ou à négliger la chanson française.
Plutôt à dénigrer, je suis assez
d'accord. La chanson en français en particulier.
Moi en premier, je vais pas mentir.
Et ouais, donc ça me. Des fois, par exemple, quand je fais mon podcast, je vais essayer de dire ah tiens, il y a pas beaucoup de francophones. Ou alors ah tiens, je vais essayer de sortir du français et de l'anglais qui sont prédominants bien sûr dans ce qu'on écoute. Ouais, en fait, même dans la variété française, parfois un peu moins connue que les Brel et les Goldman qu'on connaît tous.
Oui, évidemment.
Il y a des
pépites à aller chercher, quoi.
Et ici, si on enlève le second couplet en japonais, ça pourrait être une chanson française complètement...
Oui, de ouf.
Tout à fait.
Ouais.
Normal dans le registre. Quoi.
Moi, ce que ça m'a fait... Alors, peut-être que je suis influencé par le fait que tu aies parlé de Japon, mais du coup, assez facilement, en écoutant le morceau, je me suis projeté dans une certaine poésie très japonaise justement, tu sais, que tu peux dans la musicalité que tu peux retrouver dans les bandes son par exemple de certains des films Ghibli.
Ouais,
tu vois.
Je vois très bien. Ouais.
Et je trouve que là du coup il y a un beau mélange entre justement un peu cette poésie là et en même temps on reste sur quand même ce côté très piano voix assez très classique dans la chanson francophone quoi. Ouais, j'aime bien ce mélange. Tu dis ça date de quand ça
83.
83.
Merci pour la date.
Mais c'est intéressant ce que tu dis sur aller rechercher des morceaux, ou en tout cas un genre musical que tu trouves qui est pas assez présent dans ton podcast. Genre la manière de faire la démarche est cool, je trouve. Et ça me fait penser dans le tout premier épisode, ton pilote, je pense, tu ramenais Manzuni. Attends.
Oui, Mazuni.
Mazuni.
Un chanteur algérien.
Ouais, et c'était. Moi, je me souviens quand j'ai entendu ça, j'étais là, putain, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça me fait parfois ce genre de petit déclic de ah ouais, la chanson française. Enfin, la variété française, en fait. De manière générale, j'ai plutôt une mauvaise image parce que, en fait, tous les trucs qu'on m'a fait écouter, c'était sur le tard. Enfin, tu vois, c'était pas des souvenirs nostalgiques d'enfance. Mmh. Du coup, j'ai un peu des trucs de ça me parle pas parce que j'ai jamais été éduquée avec ça.
Et puis, c'est forcément les trucs les plus connus qui ont parcouru les décennies. Et donc, il y a plein de pépites qui sont restées dans cette époque. En
de
fait.
Ouf.
Tu viens pas du coup. Tu ressens pas une certaine originalité, et j'ai l'impression de tomber quand t'es dans.
Ouais.
À partir d'un moment, quand t'es dans une démarche de recherche de musique, si c'est pour aller découvrir des trucs obvious pour tout le monde,
oui, oui. Voilà.
C'est pas sexy.
Ouais, de ouf.
Exactement.
Donc, que d'aller dénicher le petit chanteur, tu vois, qui est un peu moins connu et tout. Je pense que, voilà, il y a quelque chose d'un tout petit peu plus.
Satisfaisant.
Stimulant, quoi.
Ouais, je comprends. Alors, Yanis, pour cette première chanson, on a envie forcément de te faire parler un peu de tes souvenirs musicaux. Parce que c'est un peu toujours les questions qui reviennent avec nos invités et tout. Est-ce que tu aurais des souvenirs d'enfance de la musique de tes parents ? Qui t'aurait marqué ?
Dans la voiture, on écoutait du Bob Marley, beaucoup.
Okay, ouais.
Donc, il y a quelques chansons que je connais sur le bout des doigts. On écoutait les Beatles, pas mal. Mm-hmm. C'était quelque chose qui m'a marqué. On écoutait même du U2.
Ouais.
Après, il y a aussi... moi, je suis, j'ai une famille qui est originaire d'Algérie.
Ouais.
Donc, on écoutait aussi plein de choses. Du Rai, du Cheb Mami. Plein de choses comme ça qui tournaient. J'ai le souvenir de voyages en famille pendant plusieurs heures où il y avait vraiment l'album Ryan B. Fever qui tournait en boucle.
Ah, quand même. Ah ouais, c'est pas...
Ah, vraiment.
Ouais, non, c'est pas... tu sais, j'ai pas l'impression que c'est la musique de nos darons, quoi.
Non, justement. Non, effectivement. Après, il y a aussi... Mais j'ai, par exemple, moi, j'ai pas été un enfant qui a été éduqué à nostalgie. C'est bête, mais toute la culture nostalgie, c'est-à-dire connaître les Gilbert Montagnier, et tous ces...
Oui, toute la certaine variété française.
Et ben, j'ai dû me le faire un peu a posteriori par moi-même. À me dire, ah tiens, je connais Nougaro, mais j'ai pas écouté Nougaro en fait. Je connais deux chansons que j'ai appris à l'école et le reste, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que, ouais, j'ai quand même eu des parents, enfin... On aimait la musique, quoi. Et puis, avec mon frère, ma sœur, on chantait beaucoup. Ça a toujours été un truc qui m'a plu.
T'avais des trucs de frères et sœurs, des chansons que vous avez ensemble et tout ?
Beaucoup. Bah, je pense, j'avais mon grand frère qui m'a fait mon éducation au rap.
Okay.
Quand j'étais dans un milieu, enfin, j'étais en école primaire, dans un milieu où absolument personne n'écoutait de rap. Et moi, je rentrais à l'école et j'écoutais Sefiu, j'écoutais Soprano, vraiment, j'écoutais Negmaron, bref, c'était vraiment quelque chose du coup que je partageais avec personne, puisque mes copains n'écoutaient pas ça, ils écoutaient Mylène Farmer avec leurs parents, quoi.
Ouais, c'était encore un âge où effectivement t'étais dans la musique
de tes parents, vraiment tout petit, et juste je rentrais, je jouais à l'ordinateur, en même temps je me mettais des albums déjà, mais des albums du début à la fin, de... Ouais, Psychiatre de la Rime.
Ton frère, il a combien de...
Il a 7 ans plus que moi,
okay.
Et pareil, ma sœur a 9 ans plus que moi, et elle aussi, elle m'a influencé, mais du coup sur d'autres registres, je pense à c'est qui le groupe qui fait Naïve,
les Cooks,
des choses comme ça, The Cooks,
c'est marrant,
pop, enfin une sorte de pop rock,
plutôt pop rock, même avec elle on écoutait du Mika, on écoutait des choses comme ça,
c'est donc, les deux pans des années 2000,
c'est vraiment ça, et donc je pense que j'ai eu ces deux richesses là,
génération de
le côté un peu Radio Nova, le côté un peu Skyrock, c'est peut-être ça aussi qui a favorisé mon goût pour l'éclectisme, et au final j'écoute vraiment de tout encore aujourd'hui, quoi. Je suis allé dans la même semaine à un concert de The Pirouette et de PNL, quoi.
Donc
c'est pas mal.
Et les deux, je connaissais les paroles par cœur.
Ce qui est,
c'est important.
C'est ça, c'est pas que de la curiosité pour l'un ou pour l'autre.
Ouais,
c'était
je suis vraiment fanatique des deux, quoi.
Trop bien.
Très bien.
Et est-ce que tu te souviens genre des premières fois où t'aurais écouté de la musique par toi-même, justement, sans ce truc de ton frère et ta sœur qui te mettent des trucs
C'est une bonne question. Je pense que c'est générationnel, mais ça va être l'arrivée des Nekfeu, de l'entourage de 995. Au tout début, je pense à l'album commun de Alpha One et Nekfeu,
Sous-marin,
qui m'a vraiment
ça
m'a traumatisé aussi. C'était vraiment un album, peut-être au collège je pense, 5e, 4e, et on était parmi les premiers à écouter ce genre de rap, à écouter des Mac Miller aussi dans les débuts de sa carrière, des trucs comme ça, et du Logic,
Clément
Acquiesce.
Ouais, non mais c'est marrant parce que
renouveau un peu du rap
tout,
qui arrive.
Tout d'un coup, par curiosité, t'as quel âge ?
J'ai 24 ans.
Ah ouais, je trouve que tu fais plus vieux. Du coup, je te voyais un peu plus
vieux.
Ouais,
non, je suis jeune.
Du coup, parce que moi, en tout cas, c'est des choses que j'ai beaucoup plus écoutées. Mais par contre, effectivement, moi, je sortais d'école de cinéma, tu vois. Donc c'était avec quelques années de plus. Mais
non, moi, j'étais tout petit à cette époque-là. J'étais en 5e, 4e.
Trop bien.
Les Rap Contenders aussi, c'était toute cette époque-là. C'est cette nouvelle génération un peu de rap qui est arrivée dans les années 2010.
Je comprends encore plus que du coup, ça puisse... en étant encore plus jeune, à quel point ça peut matrixer, quoi.
Tu
le vois énormément, même dans les artistes, beaucoup d'artistes rap aujourd'hui, tu sens cette influence.
Clairement. Après, je dirais que c'est là. Où vraiment, j'ai écouté des choses que, par exemple, mon frère ou ma soeur n'écoutaient pas, et c'était un truc un peu de chercher sur YouTube la petite pépite, et on était content qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, etc.
C'était en rap principalement que tu cherchais
Je suis avant. Je pense que si je dois dire un socle musical, ça va être le rap.
Ouais.
Puis avec les années, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus, même si j'ai toujours aimé le reste.
C'était tes premiers amours, quoi.
Exactement. Oui, et que tu commences à devenir un peu boulimique, et que tu commences à être voilà, dans la démarche
écouter,
de chercher, de tout écouter.
Écouter l'album de la première à la dernière track. Après, s'il faut parler aussi de mon éducation musicale, j'ai aussi été en école de musique. Je suis guitariste. Okay. Depuis que je suis très jeune, je sais plus combien d'années ça fait, mais j'étais vraiment pas grand quand j'ai commencé la musique. Okay. Et donc j'avais des cours de solfège et de guitare. Ça m'a aussi donné toute une culture. J'étais dans une école de musique qui était très axée sur le jazz. Donc j'ai eu une vraie culture blues et jazz aussi qui était transmise par là. C'est encore aujourd'hui une musique que j'écoute beaucoup. J'aime beaucoup voir des concerts, j'adore le fait d'improviser. Donc je me mettais des morceaux de jazz et je jouais par-dessus. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et c'est aussi, ouais. Je pense que c'est aussi une des dimensions qu'il faut ajouter à.
Qui t'ouvre une sorte d'autre pan musical,
ouais,
et forcément du coup de curiosité, quoi. Fondamentalement, qui fait de toi quelqu'un de curieux et d'ouvert aux différents champs musicaux. C'est rigolo quand même, t'es pas le premier du coup invité qu'on reçoit ici qui a effectivement ses formations de jazz. Mais du coup.
Parce que c'est trop cool le jazz.
Bah exactement, mais en fait c'est rigolo parce que je trouve que ça a pas nécessairement cette image-là, tu vois, dans. Quand
oui,
on en parle.
Absolument.
Ouais, oui, y a souvent.
Et dans nos générations, surtout.
C'est ça, dans nos générations.
Parce que moi, mon daron, il est ultra fan de jazz. J'avoue que moi, ça m'a vacciné. Hein.
Mais c'est un peu terrible, ouais.
Il y a un côté très poussiéreux, souvent.
Et puis, il y a un snobisme dans le milieu, en lui-même. C'est inaccessible quand on n'en a pas fait, on comprend rien à ce qui se passe. On a l'impression qu'ils font n'importe quoi sur leurs instruments. En fait, il y a un vrai.
Il n'y a pas les codes, t'as pas les codes.
Ouais, il y a un vrai problème de musique un peu cryptique qui, du coup, les gens la rejettent en bloc. Un peu comme certains peuvent rejeter de la techno parce qu'ils comprennent pas que ça fasse boum boum et que en fait derrière il y a une richesse, quoi. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même des portes d'entrée. Bon, on va en parler un peu après dans mon second choix. C'est une super porte d'entrée vers les musiques jazz parce qu'en fait il y a aussi tout ce qui est funk et c'est des musiques sur lesquelles on peut danser, on peut s'amuser, qui sont très joyeuses et c'est cool, quoi.
Ouais.
Du coup, par rapport à toute cette culture, cet éclectisme du coup que tu as dans la musique, est-ce que t'es du coup dans ta bande de potes, t'es le pote qui connaît la musique? Comment ça se passe avec les gens autour de toi?
Alors,
t'as une bande avec qui tu peux en parler?
On va dire que ça dépend parce que je pense que le rapport qu'on a nous trois à la musique, c'est pas le même que certaines personnes, en fait.
Que le commun des mortels.
Non, pas que le commun des mortels, mais je dirais qu'il y a plusieurs degrés.
Ouais.
Il y a des gens qui vont vraiment se mettre une playlist au hasard sur Spotify et avoir des gens qui tournent, ok, il y a de la musique. D'autres qui vont dire, ah ouais, j'aime bien ces trois artistes, du coup je les écoute souvent, ah il y a un nouveau Nekfeu, je vais l'écouter. Et d'autres qui, un peu comme nous, qui vont vraiment être dans la recherche de petites pépites, de toujours vouloir écouter des nouveaux trucs, être vraiment attentif. Et du coup, dans mes amis, je dirais qu'il y a un peu de ça. Il y en a qui, bon, ils s'en foutent un peu et il n'y a aucun problème. Ça reste mes meilleurs potes. Mais ils ne vont même pas écouter ce que je fais ou les chansons que je leur recommande.
Ouais, ok.
J'aime bien me connecter sur ensemble Bluetooth, mais même pas pour mettre des trucs improbables, mais pour mettre le Beyoncé qui va mettre tout le monde d'accord.
Ouais.
Parfois, je trouve ça aussi cool. Ou aussi, parfois, j'en profite quand c'est en musique de fond et que personne écoute, de mettre mes sons à moi qui me font kiffer.
Ouais, c'est ça, de voir si ça réagit.
C'est ça, voir si ça quelqu'un qui bouge la tête ou pas.
Clément est dans ce genre-là, je crois.
Pas du tout, en vrai.
Ah bon ?
Ah non, moi j'ai totalement. Moi avec mes potes, moi j'ai totalement lâché l'affaire. Moi ça m'est trop arrivé de vouloir, mais peut-être ça c'est mon problème aussi, tu vois, de mettre peut-être quelque chose qui fait que du coup les gens réagissent, mais pas forcément de la bonne manière, tu vois.
En mode, qu'est-ce que cette musique?
Ouais, qu'est-ce que c'est, tu vois. Mais pas curieux, tu vois. C'est vraiment
bizarre ce que t'as mis là.
Mais en fait, ça me saoule. Enfin, tu vois, vraiment, il y a un moment, tu fais.
Mais non, je suis un peu comme toi là-dessus, sur un peu la pratique solitaire de la musique. Je pense que dans mon écoute à moi, elle est infiniment plus riche que quand je vais la partager avec mes potes, en fait. Parce que forcément, quand je vais essayer des rappeurs bizarres entre l'hyperpop où il y a 4 changements de prod par seconde.
Ouais.
Alors là, oui, c'est pas des trucs que je vais partager avec des potes. J'ai pas de potes qui sont assez puristes de ce genre de style pour en discuter, pour les partager. Donc c'est des choses que je vais garder un peu pour moi et pas forcément partager. Et après, pareil, quand je vais être avec des amis, ça va être de l'Easy Listening, un Guy Tranada que tout le monde aime. Et
voilà, mais qui peut être qui glisse. Déjà d'une certaine manière, qui est un tout petit peu plus.
Ouais, par contre, flemme de mettre du Kungs.
Alors là, on est d'accord. Moi, en tout cas, souvent, quand on me demande d'être dans cette démarche-là, j'en vois souvent péter les gens. Oui. Je fais non, en fait, si tu veux mettre ton Céline Dion ou si tu veux mettre ça, en fait, fais-le tout seul. Tu n'as pas besoin de moi pour le faire.
Ouais.
Parce que moi, j'en ai pas envie de faire ça.
Ouais, ça m'arrive aussi.
En tant que DJ, ça doit être vraiment
c'est ça, c'est
pire.
Genre, quand t'es en soirée avec des copains et qu'on te dit, genre, ah, mais toi, t'es à DJ, vas-y, mets du son. Et t'es vraiment en mode non, parce qu'en fait, vous allez vouloir changer les morceaux à la moitié du son.
Oui.
et j'aime pas ça. Ou alors en général, ce que je fais, c'est que je mets des DJ sets. Ah, je suis en mode, je mets un DJ set de quelqu'un que j'aime bien, que j'ai déjà écouté et tout, et ça marche bien, les gens sont contents, et voilà. Écoutez, je vous propose qu'on passe au son d'après. C'est donc à moi de présenter mon morceau à Yanis. Et aujourd'hui, je suis venue avec l'envie de réunir deux univers que t'aimes bien. Et ce qu'il y a de bien avec ton podcast, c'est que ça nous donne un peu une idée, tu vois, de ce qui pourrait te plaire. Et du coup, je me suis dit, je vais ramener une artiste qui, a priori, réunit deux choses que t'aimes bien. D'un côté, le hip-hop et les productions un peu bouncy. Et de l'autre, la musique lusophone. On en parlait, la musique brésilienne. Oh. Voilà, c'est plutôt au Portugal, mais bon, c'est un peu dans l'idée. Parce que du coup, oui, tu passes beaucoup de musique brésilienne dans ton podcast. Mais du coup, on va partir du côté du Portugal et de la Belgique avec une chanteuse et rappeuse qui s'appelle Blue Samu. Est-ce que tu connais ?
Pas du tout.
Pas du tout, super.
Hâte d'écouter ça.
Alors, formidable.
Le pitch donc,
elle s'appelle Salomé dos Santos dans la vraie vie. Et c'est une artiste belge qui a fait pas mal d'allers-retours en fait, entre le Portugal, et où il y a une partie de sa famille qui habite, où elle a été en partie élevée par sa grand-mère, je crois, et Anvers, où elle a été élevée par sa mère. Et puis, elle s'est installée à Bruxelles il y a quelques années. Elle traînait pas mal avec les membres du 7-7, qui est un groupe de rap belge. Okay. Et puis, maintenant, elle est de retour à Anvers. Bref, moi, je la découvre en 2017 avec un premier clip qu'elle sortait qui s'appelait Iron. Et j'avoue que depuis, à chaque fois qu'elle sort un truc, je suis avec attention. Pour l'instant, c'était pas encore tout à fait affiné et tout. Mais là, elle a sorti un dernier EP qui est vraiment, vraiment chouette.
L'EP de la maturité.
Exactement. Elle a 3 EP à son actif. Le premier est sorti en 2018, qui s'appelle Mocha, qui est une référence au surnom que lui donnait sa grand-mère. Et qui est majoritairement en anglais, avec des vibes très néo-soul. Même si elle rappe pas mal, il y a un peu ce côté. Alors, tout le monde l'a comparé à des Lauryn Hill ou à des Sade, tu vois. Alors, d'accord. Je suis un peu en mode, bon, c'est les gros, gros noms. J'entends le rapprochement avec Lauryn Hill parce
Michael que... Moss.
Y a, ouais, c'est ça. Il y a le côté, ça chante et en même temps, ça rappe. Mais en effet, mollo, Lauryn Hill, bon, voilà.
C'est pesant comme comparaison.
Ouais, c'est beaucoup, tu c'est vois.
C'est pas n'importe voilà. qui.
Ensuite, elle a sorti un EP qui s'appelait Control Alt Delete en 2019 en indé. Et vraiment, à l'époque, je me souviens qu'elle était épaulée par Isult à la DA. Mm-hmm. Et c'est beaucoup plus sombre que son premier EP. Et j'étais un peu étonnée, tu vois. Mais en même temps, l'ensemble des prods, je trouvais ça assez vénère, assez kické, tu vois. Et il y a un titre qui s'appelle GFM que j'aime beaucoup sur ce projet. Et là, récemment, après 3 ans de pause, elle a sorti un nouvel EP qui s'appelle 7 ou 7 ou 7, c'est comme vous voulez, c'est écrit 7, donc vous pouvez le prononcer dans toutes les langues. C'est
en portugais, bon. Certainement.
Bah écoute, elle dit qu'elle a écrit le chiffre pour que tout le monde puisse le prononcer comme il veut, voilà, dans la langue qu'il souhaite. Parce qu'elle, du coup, faut savoir, donc elle a grandi à Anvers, donc elle parle flamand, portugais, un peu français et anglais, donc c'est un peu, un peu compliqué. Et justement, elle raconte que pour ce projet-là, c'est vraiment le premier projet où elle chante quasiment majoritairement en portugais, je pense. Et elle raconte qu'elle a eu beaucoup de mal à se mettre à chanter en portugais parce qu'elle avait peur qu'elle ne maîtrise pas tout à fait la langue. Mmh. Et donc, elle a fait relire ses textes par son oncle et par sa nièce pour vérifier si c'était, entre guillemets, du vrai portugais, tu vois. Et donc, du coup, c'est un EP de 7 titres, comme l'indique son nom, a priori, voilà. Et c'est un projet qui parle d'amour, de ses amours, tu vois, genre d'amour large, tu vois, paternel, amitié et amour, sentimental, voilà. Je vous propose, bah, du coup, qu'on écoute la musique, voilà. Le morceau s'appelle Elastico et on en parle un peu après.
Será que estou no fim do teu amor para mim? Hey, o que a paixão nos faz? Será que sou capaz? Ele dá-me amor e dá-me dor. Ele dá-me amor, ai, dá-me dor. Ele dá-me amor e dá-me dor. Ele dá-me amor, ai, dá-me dor.
C'était Blue Samu. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Yanis?
Eh bien, c'était trop bien. Merci pour la découverte.
Avec plaisir. T'as kiffé, Clem ?
Ouais, grave.
Ouais.
Ouais, ouais, non, j'aime beaucoup là, cette approche-là, la rythmique. Tu sens la rythmique brésilienne, mais comme tu disais, il y a un côté un tout petit peu plus patate.
Ouais. Y a, en fait, ouais, c'est pour ça que je la ramène, parce que en fait, j'ai hésité à le ramener, du coup, à ramener un autre morceau qui s'appelle ouais. Turquoise, mais où elle chante en anglais. Et du coup, je voulais absolument ramener la musique lusophone, voilà. Et en fait, j'aime bien le côté de la prod un peu bouncy, un peu école. Ça pourrait être école, Ketrenada, ouais, Future oui. Beats, tu je vois.
Un peu à l'anglaise aussi, ouais. Dans les... dans les sonorités, ouais, les harmonies, tout ça.
Mmh. Ouais. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui va plaire à Yanis, tu vois ?
Ah, c'est bingo, là. Franchement, c'est réussi. Ça va vraiment rentrer dans ma playlist.
Ah, trop cool. Du coup, c'est un EP qui est produit par Sam Tiba, qui est un membre de Club Cheval. Un
ouais,
ex-membre
ouais,
de Club Cheval,
nom,
voilà. Et maintenant, il fait de la prod pour plein d'artistes et assez éclectique. De Vendredi sur Mer à Zola, en passant par Ziak, Squeezie,
ah ouais.
Ou Isha. Donc on
je
est sûr.
Ah ouais, je savais pas qu'il faisait autant de choses. Je sais ouais. qu'il intervient aussi dans le podcast Vulgate
oui,
de
c'est
Grunt.
Lui qui fait le podcast Vulgate de Grunt, tout
d'accord.
à fait. Et je crois qu'il a fait des études en histoire de genre ancienne, je sais pas quoi. Enfin bref, donc je pense que ça vient de là l'envie de faire Vulgate à la base.
Très chaud.
Dans la musique de Blue Samu, je trouve qu'il y a un truc très mélancolique mélangé à du banger comme ça, tu vois, où on sait pas trop. Et ouais. sur cette EP, je trouve que c'est vraiment genre l'EP où elle s'est trouvée un peu. Où elle a enfin osé, tu vois, genre chanter en portugais. Elle a enfin osé chanter même, tu vois, parce qu'elle en parle en interview. Elle dit que c'était un peu compliqué pour elle de chanter parce qu'elle avait pas hyper confiance en sa voix, parce qu'elle a voilà, un peu cassé, un peu rauque. C'est un petit bail, elle lui a dit, tiens, voici l'autotune. Tu vas voir, ça va être super.
Tu vas voir, tout va
voilà.
passer.
Et donc du coup, elle a commencé à chanter un peu avec l'autotune. Elle a fait, ah ok, ça marche maintenant. Et donc elle s'est un peu lâchée. Et sur, tu vois, sur cette EP, il y a et des trucs un peu rap vénère. Mm-hmm. Notamment sur Turquoise, il y a vraiment ce côté, je vais bouffer le monde, quoi. Et en même temps, il y a d'autres morceaux où elle chante en portugais et la prod est beaucoup plus épurée et c'est hyper beau. Et donc voilà, je kiffe vraiment cette artiste et je suis très contente qu'elle prenne ce tournant-là, ça me fait vraiment plaisir. Et je ne vais pas oublier, pour une fois, pour prolonger l'écoute...
Bah, tout de suite, ouais. Rien que
oh là là, on oublie à chaque épisode quand il y a des invités. Je voudrais vous recommander, bah, justement parler de Grunt, sa session Grunt d'or où il y a Joseph Ciano di Lombo qui l'accompagne au piano.
Ouais.
Et où elle est dans une espèce wow. de robe de mariée... courte, enfin genre c'est assez cool.
Ah oui, c'est sorti assez récemment là. Ça.
Ouais, ouais, c'est okay. sorti il y a pas très longtemps. Ouais. Bien sûr, bah cet EP 7 et du coup son EP Mocha quand même par lequel j'ai découvert que je trouve vraiment assez chouette et dans le côté un peu néo soul et tout c'est quand même ouais. assez bien fait.
Okay.
Et il y a un featuring notamment avec un mec qui s'appelle Pete donc qui était dans le 7-7 le groupe belge là qui s'appelle Nati le morceau où elle chante un peu en portugais sur le titre et quand j'avais entendu ce morceau je m'étais dit ça c'est vraiment cool et ouais. du coup je suis contente là, de ce nouvel EP et si jamais vous voulez la voir sur scène elle passe à Rock-en-Seine fin août voilà. Et sinon elle a des dates en Belgique, s'il y a des Belges qui nous écoutent elle passe au Botanique à Bruxelles début octobre voilà. Et donc du coup moi je voulais rebondir là-dessus bien sûr, je voulais parler de musique brésilienne forcément parce que là tu vois on a parlé un peu de tes premiers amours musicaux etc
ouais.
et en fait on n'a pas évoqué la musique brésilienne du coup je me demande à quel moment ça arrive
assez facilement comme on vient de l'entendre dans la chanson qu'on a écoutée
ouais.
Le brésilien ça sonne trop enfin le portugais ouais. de manière générale ça sonne trop bien genre là même quel que soit l'accent on va dire que ça vienne du Brésil
ouais.
ou du Portugal de toute façon on n'est pas qualifié
pour
je
oui,
pense qu'ici autour de la table on ne
personne
sait
pas ne saura détecter
reconnaître un brésilien d'un portugais
nope.
C'est des sonorités que je trouve vraiment trop belles et qui se marient vraiment super bien avec la musique
mmh.
C'est assez doux c'est pas trop. Le français, c'est une langue qui peut frotter, qui peut être assez dure.
Ouais.
Je trouve que le brésilien, au contraire, c'est une langue très ronde et très,
ouais, je suis assez d'accord.
Très douce.
Ouais, ouais.
Pour ce qui est de la musique brésilienne en elle-même, je pense que bah, de base, je suis un guitariste. Donc j'ai un peu cette déformation qui fait que dès qu'une chanson a de la guitare, elle va me toucher x2. Même quand PNL font une prod avec de la guitare dedans, mmh. ça va être ma chanson préférée de l'album immédiatement. Parce que je sais pas, il y a un truc en moi qui vibre ou
ah ouais.
peut-être c'est que je me dis je pourrais peut-être le jouer un jour, ah ouais. je sais pas, mais ça me plaît x10. Et la bossa nova, c'est un peu le jazz où la guitare est la plus mise en avant. C'est vraiment basé sur ça,
ouais.
deux guitares et un chanteur et ça fait une chanson de bossa en fait.
Mmh.
Je crois que ma porte d'entrée, ça a été au final une chanson de Moustaki qui est Les Eaux de Mars. Et
okay.
en fait, Les Eaux de Mars est une adaptation de Aguas de Março, de Jobim et plein d'autres. Enfin, tout le monde l'a reprise
ouais.
d'une manière, à un moment ou à un autre, de toute
c'est
façon.
C'est un standard. Ouais.
C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars.
En plus, c'est ça que je trouve sympa, c'est comme tout à l'heure, j'en parlais avec Pierre Barou, les versions françaises adaptées de chansons brésiliennes, elles sont vraiment pas inférieures, c'est pas des copies peu inspirées,
ouais.
Comme on peut voir des chansons de Claude François qui sont complètement 100% copiées de chansons américaines, parce qu'il n'y avait pas le bateau pour faire transporter les vinyles. Alors que non, là c'est vraiment, Cheikh Moustaki aussi a coécrit avec Jobim la version française le texte. Okay. C'est peut-être d'abord le texte qui m'a beaucoup marqué, enfin la musique aussi en fait.
Mmh.
En fait c'est des accords très riches sur le manche de guitare.
Okay.
Par exemple dans le rock, ça va être,
c'est plus simple.
Ça va être des accords très simples, des harmonies, des chansons à 4 accords. La bossa c'est des chansons à 36 accords où ça change en permanence, ça fait des renversements. Un accord on va le faire quatre façons différentes sur le manche en une minute. Et ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'admire ceux qui savent en jouer. Et j'apprends d'ailleurs à jouer quelques morceaux, j'en ai quelques-uns dans mon répertoire.
Trop bien.
Donc ouais, je pense que ça vient de là. Et...
Ouais, donc c'est un peu la fascination de la technique aussi, quoi.
Et puis par sérendipité, en fait, j'ai commencé en écouter une, puis deux, puis YouTube a fait son travail aussi, hein, c'est bête, mais l'algorithme, je tombe sur des lives, je tombe sur des albums, puis je vais chiner de plus en plus.
Ouais.
Je connais les artistes ensuite, donc je suis plus capable de savoir qui a écrit ceci, qui a écrit cela, je connais les titres. Et voilà, et on
bah, découvre déjà, ça passion, c'est le signe en général que tu commences à diguer, c'est-à-dire que tu sais, quand tu commences à retenir les noms d'artistes.
Exactement.
Je trouve que c'est vraiment le step où tu fais ah ouais. OK, je suis capable
genre,
de le reciter.
Des fois ça fait ding dans ta tête, genre bah là j'ai hésité à ramener un autre artiste, je voulais ramener Willy Colon qui est un artiste qui fait plutôt de la salsa et en gros si tu veux, il y a Rosalia qui en parle dans son album, dans son abécédaire là, il y a un moment donné, elle arrive à W, elle dit W Willy Colon. Ça m'a tilté la dernière fois et je vais écouter un peu des albums et je tombe sur un album. Je suis en mode, cette pochette, elle me parle de ouf. C'est un sample d'un truc ultra connu et tout. Et je vais regarder, c'est un sample de Major Lazer que j'ai connu il y a 3 ans et tout. Et en fait, j'avais jamais retenu Willy Colon à l'époque. Mais là, ça fait 3 fois qu'il revient dans mes trucs. Et du coup, maintenant, tout se met en place.
Tout s'est aligné.
Genre, c'est le Tetris, quoi. C'est trop marrant.
Ouais, c'est trop cool, ça. Quand on est capable, justement, de... Quand on arrive à remonter vraiment à la racine de la racine du sample, et bien, en fait, on est là à avoir les clés de compréhension de ce qu'on écoute.
Ouais, de ouf.
Ensuite, on peut même se dessiner une sorte d'arbre dans la tête de tout ce qui a pu découler
d'évolution, quoi, d'une sorte
d'évolution,
d'évolution de la musique et de leur rapport.
Et
à
c'est trop cool,
ça.
J'avais vu aussi un site internet sur les évolutions de la musique électronique, avec vraiment les centaines de subgenres de techno, de house, d'ambiance, etc. Et c'est passionnant parce qu'il y avait une scène représentée sur une frise.
Ouais.
Donc on voyait au fur et à mesure un peu les scissions qu'il y avait. Donc dans la deep house en fait, après il y avait la minimale, après la maximale, des choses comme ça. Enfin, avec tous les adjectifs les plus fous associés à house ou
comme,
à techno.
Tu vois le site web Every Noise at Once?
Non, ça me parle pas.
Ouais, c'est un site incroyable où il référence tous les genres musicaux de Spotify. Et donc du coup, t'as une espèce d'énorme nuage de mots.
Ouais.
Et donc quand tu cliques dessus, ça t'emmène sur les sous-genres musicaux du truc. Ou alors, tu sais, genre ça te zoom et t'es en mode, bon bah, je sais pas, genre sur la bossa nova, tu vas avoir tous les genres affiliés.
Ouais.
Après, tu peux cliquer dessus et avoir des playlists.
Trop
avec
bien.
Genre les artistes qui sont référencés dans ce genre-là et tout. Puis les noms des genres musicaux en plus, des fois, ça n'a aucun sens, c'est trop drôle.
Et au final, tout ça a une racine, quoi.
Ouais, enfin,
par exemple, le rap, au début, c'était des mecs à New York qui rappaient sur des vinyles.
Ouais, c'était les mecs qui faisaient les breaks des
MC,
vinyles.
Voilà,
ouais,
et puis ensuite, il y a 1000 genres différents qui sont créés.
Moi, ça me donne du coup envie de te demander, t'es quel type de découvreur de musique du coup.
On va dire que non, je suis pas en mode je découvre ce genre, il faut que je finisse le jeu et que je connaisse il faut que je finisse tout à 100%, que je connaisse chacun des artistes
qui participent,
qui ont collaboré à ce mouvement, etc. Bah, en fait, même dans mon écoute chaque semaine, chaque jour, ça reste assez éclectique et donc il y a des moments où je vais avoir envie d'écouter de la drum and bass parce que je travaille, d'autres où je vais avoir envie de calme donc je me mets du jazz pendant quand je suis à vélo, des choses comme ça. Donc ça va être ça fonctionne plus en termes d'envie d'artistes que je vais découvrir. Souvent, par contre, j'écoute les discographies un peu, des artistes que j'écoute. Pas forcément en écoute super active ou quoi, mais je vais tout mettre pour essayer de découvrir ce qu'il en est, comprendre un peu l'évolution. Je trouve ça bien. Un peu comme écouter des albums en entier, en fait.
Ouais,
c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et ça me prend le cœur, les gens qui écoutent en random.
Je veux... J'approuve totalement ce message. Je suis tout à fait comme toi.
Ouais, parce qu'en plus,
j'aime bien ce devoir, l'évolution d'un artiste.
Absolument. Ah ouais, ce qu'il veut nous raconter.
Ce que vous faites, c'est genre commencer au premier album et aller jusqu'au dernier.
Ça peut m'arriver. En tout cas,
pas nécessairement.
Moi, je sais que ça peut. Non, oui, peut-être pas. Tu vois, d'un point de vue si scolaire, de se dire tiens, je vais vraiment écouter tous les albums, tous les morceaux. À part si vraiment j'aime bien. C'est-à-dire que tu sais, mettons que je commence premier album, premier track. Le premier album, il est vachement bien passé. Bah, c'est d'ailleurs en l'occurrence, ça sera le cas de l'artiste que je vais ramener tout à l'heure. Tu vois, où vraiment tu découvres.
Fais que du teasing dans ce
mais c'est trop bien. Et du coup, premier album, deuxième album, troisième album, quatrième album. Ouais, tu vois. Après, parfois, sinon, tu sais, pour aller un peu plus vite, c'est le premier. Tu vois un peu ce que ça donne.
Ouais,
et tu vas au dernier. Et tu vois le pont qu'il y a. Tu fais est-ce que j'ai vraiment envie de faire le chemin ou pas. C'est, si ça te parle pas, tu fais on va peut-être rester sur le début, ce qui peut te parler, jusqu'au moment où ça évolue.
Et tu parlais tout à l'heure de technicité, de guitare et tout. Et du coup, moi, je voulais te parler parce qu'on t'a croisé à un certain festival qui s'appelle Wheel of Green.
Oui, tout à fait.
Et je voulais parler un peu de musique live.
Mais
et
pas que d'ailleurs. On s'est croisé même à plusieurs soirées en fait parisiennes autour de la musique.
C'est vrai.
C'est un petit monde.
Voilà.
C'est vrai. Mais du coup, je voulais te parler un peu du live et d'aller à des concerts, etc. Et du coup, forcément, je voulais ouvrir sur cet Angana parce que je sais que tu l'as vu. Et pareil, tu vois, le flamenco, il y a ce côté guitare, technique et tout. Et je me demandais ce que ça te faisait en live, justement, de voir la technicité directe, quoi.
C'est trop bien. Enfin, je trouve que ça apporte une valeur en plus, en fait. Entre
vas-y.
No shade au DJ.
Bien sûr.
En revanche, mais le fait de voir. Même, en fait, il y a des DJ qui sont trop forts. Hier encore, j'ai vu Teki Latex faire des blends en direct. Là aussi, je vois une technicité et je trouve ça encore plus génial de voir l'artiste en train de fabriquer son art avec. On sent les années de pratique et donc quand le guitariste flamenco vient faire ou alors les chanteurs chantent avec une voix dans laquelle ils transmettent tellement d'émotions, de force, de. Vraiment, enfin, tellement de couleurs dans leur voix, c'est génial. Et donc, ça me parle énormément, le flamenco. Mais c'est notamment pourquoi cet album, le Matrilineo de Tangana, il faut l'écouter, c'est important.
Tu prêches des convaincus.
Je le répéterai
jamais. Si vous êtes à cet épisode du son d'après et que vous avez écouté tous les autres sans jamais avoir écouté cet Tangana, que s'est-il passé? C'est la question que je me pose.
Mais du coup, t'es un gros consommateur de concerts, a priori.
Ouais, là, récemment, je suis allé à pas mal de concerts. Donc, c'est très cool. Et puis, le fait d'être à Paris, en plus, c'est très cool, quoi, parce qu'il y a plein de choses qui s'y passent. On peut trouver plein de places de concerts.
Et est-ce que t'as des concerts, des lives qui t'ont marqué particulièrement ces dernières années ou dans ta vie?
Alors là, je vais y réfléchir. T'inquiète. Ah, si, ça y est, je sais quel est le meilleur concert de ma vie, en fait. Et c'était à Bordeaux. J'ai vu Anderson .Paak pour Free Nationals pour sa tournée.
Malibu. Oui, sur le Malibu. Okay.
C'est Malibu l'album.
Malibu, ok.
Et c'est en plus, c'était à une époque où Anderson .Paak était encore pas très connu.
Dans une petite salle.
Le Rocher de Palmer, c'est une toute petite salle où vraiment il y a une proximité de fou. Le son est génial.
Ouais.
Et en fait, il s'est donné, mais c'était un show de malade, quoi. Enfin, une vraie bête de scène, la bête qu'on connaît aujourd'hui, qui remplit des stades avec Bruno Mars. Mais là, en fait, il a juste fait une tournée en France dans des petites salles. Truc de fou, je suis trop heureux de l'avoir vu à cette époque-là parce que je pense que c'est vraiment la seule fois de ma vie où je pourrais le voir dans un tel contexte fait. C'était vraiment, il y avait 500 personnes peut-être.
Ouais.
C'est un
performeur de dingue.
C'est un pur showman, un pur performeur.
C'est un musicien, un danseur, un chanteur. C'est,
ce côté batterie
c'est une légende.
Mais de le voir, j'imagine effectivement avec une telle proximité.
Je crois qu'en plus, c'était une époque où je faisais pas beaucoup de concerts, j'étais en prépa. Donc voilà.
Ouais, du rail.
Là, tout d'un coup, ça s'allume.
C'était un vrai week-end sympa, quoi.
Ouais, c'est le moment marquant de ouf de la prépa de manière générale, quoi.
Exactement.
Écoutez, je propose qu'on passe au son d'après, on est bien ?
On est bien.
Allez.
Let's go.
C'est donc le troisième morceau de cet épisode, et c'est encore à toi, Yanis. Quel est ton deuxième choix ?
Alors, c'est la chanson How Much Do You Love Me de Wolfmon.
Mm-hmm.
Wolfmon, qui est le pseudo de Jack Stratton. Jack Stratton, qui est le leader du groupe Wolfpack.
Ah, mais je me suis
dit. Là, tout de suite, est plus connu.
Je me suis dit, quand j'ai vu Wolfman, je me suis dit, est-ce que c'est un side project?
Tout à fait. Okay. Parce qu'en fait, c'est un groupe assez tentaculaire dans lequel il y a Wolfpack qui va être le truc de base. Mm-hmm. Mais leur chaîne YouTube, par exemple, s'appelle juste Wolf.
Ouais.
Et il y a plein de projets associés où, avec, par exemple, il y a deux guitaristes qui vont faire The Fearless Flyers. Il y a juste le bassiste Joe Dart qui peut faire des sons en solo, ou alors juste là c'est le leader à guitare et piano qui là fait son, qui est en perso, qui fait Wolfmon. C'est un groupe qui est trop cool. C'est un groupe américain qui fait du jazz, de la funk, parfois c'est instrumental, mais aussi il ramène souvent des chanteurs, notamment Antoine Stanley. Il faut écouter 1612 et Funky Duck.
Ok.
Et Dintown. C'est vraiment, s'il y a trois chansons à écouter de Wolfpack.
Je crois que, bah, en fait, j'avais ramené Wolfpack il y a un peu
c'est
au
possible.
Début.
C'est sûrement Dintown.
Ouais, c'était ça.
Oui, en fait, Wolfpack, c'est un groupe qui est capable de faire chanter à toute une salle, au Madison Square Garden, une ligne de basse.
Ouais, ça serait okay. Dingue. Ouais,
et la ligne de basse est tellement légendaire que tout le monde fait doulou 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 doulou. Et c'est incroyable, et c'est trop fort, ça donne envie de danser, ça met la pêche. Ils font pas de chansons tristes, de manière générale.
Okay.
C'est un peu cette esthétique très californienne, où ils sont tous en Marcel, en t-shirt, en short, à faire du jazz dans un jardin d'une grande maison, avec des tapis persans sur les murs pour isoler
du son.
Il y a un côté très DIY, mais en même temps très professionnel, où leurs instruments, ils sont parfaits.
Tout sonne parfaitement, et pourtant, toutes les vidéos, ils ont les repères proches de toi, quoi.
C'est ça. Ouais. Et donc là, la chanson que j'ai choisie, elle est sortie très récemment. Elle m'a marqué pour plein de choses. Dans un premier temps, c'est une chanson qui est assez minimaliste, puisque le setup, ça va être un synthétiseur, une sorte de kick que le pianiste avait au pied. Donc en fait, il fait juste un kick avec son pied pendant toute la chanson, et un chanteur. Et le chanteur, il a une voix qui est très particulière. Je me rappelle plus de son prénom, je sais pas si vous l'avez.
Jacob Jeffries.
J'ai regardé un peu son nom, il a encore pas sorti grand chose, il a juste sorti un petit EP, mais pas très connu. Donc je pense que pour lui, ça va être une belle opportunité de fitter avec Wolfpack. Il a une voix très particulière, très très aiguë. Je sais pas si c'est nasillard, mais en tout cas, beaucoup dans la gorge, je dirais.
Ok.
Et il a des sortes d'adlibs qui sont trop marrants. Pas des adlibs, mais des fills, où il va faire des petits « ah » comme ça, mais dans sa voix très très aiguë. C'est parfait, en fait. Ça emmène la chanson vers... ça lui donne vraiment une certaine énergie. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu.
Donc, c'est trop bien. La manière dont on parle me donne envie d'écouter ce morceau.
J'ai très envie d'écouter.
Tant mieux. J'espère avoir été convaincant.
You cooked me a dinner, salmon and soup du jour. But there's still one thing that'll settle this in my fragile, agitated mind. You put the pen to the paper, emotional labor, a stone cold hit with my name in it. How much do you love?
Do You Love Me de Wolf Monde en featuring avec Jacob Jeffries. C'était le second choix de Yanis. Qu'est-ce qu'on en a pensé, mon cher Clément ?
Ah bah écoute, moi je te remercie parce que j'ai passé un très très bon moment.
Vraiment,
c'est. Bah déjà, ce refrain est incroyable. J'avoue, il met en joie.
Ouais, mais il est en train de rire en chantant. Il y a vraiment cette joie qui est communicative.
C'est ça. Il a une voix qui est vraiment cool. En fait, qui est assez fascinante parce qu'elle est presque féminine. Tu vois, je trouve qu'il a presque une, une grande voix, genre de grande voix de la soul féminine. Quoi.
J'ai exactement noté ça. Je me suis dit, on dirait vraiment une voix de meuf qui chantait de la soul, le R&B des années 60, un peu. Ouais. Au tout début.
Et puis après, globalement, je trouve qu'il y a une extrême simplicité dans la forme.
À fond.
Et en même temps, justement, avec ce refrain, je trouve qu'il y a une sorte d'absolu.
Ouais.
Vraiment, tu sais, en fait, c'est ça la musique, tu vois. Ouais, vraiment un instrument, une voix de ouf. C'est aussi simple que ça. Et vraiment, en même temps, t'as l'impression que tu peux pas faire mieux. Puis j'aime bien, en plus, ça, c'est l'approche de Wolfpack, qui a un côté très... on garde même les petites imperfections.
Ouais, exactement.
Et dans le chant, et dans... Tu sais, il y a un moment dans le morceau, t'as presque l'impression qu'il est en train de se marrer.
Ouais.
Et du coup, ça met en joie. Ouais, gros kiff.
Et puis le synthé, quoi. Ouais. Excusez-moi.
Parce qu'en fait, je trouve que malgré la simplicité du morceau, il y a quand même une grosse attention aux détails.
Ouais.
Je sais que Wolfpack ont sorti le Wolf Compressor. Donc, ils ont aussi tout un travail.
C'est quoi le Wolf Compressor ?
En gros, c'est une sorte de VST qui permet justement d'avoir ce genre de son qui sort de synthé.
Ok.
Donc, c'est aussi des gens qui sont très, très
attentifs.
Qui sont très attentifs au son de leurs instruments, de leurs synthés. Ouais. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a un vrai travail. Aussi sur le dernier couplet, je crois qu'on a de la reverb qui arrive sur la voix. Et c'est des petits détails, mais qui viennent emporter le morceau.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et même s'il n'y a pas de grosse batterie ou de basse, en fait, ça entraîne et c'est dansant. C'est
ouais,
cool,
ouais,
et...
c'est l'attention des arrangements, etc. Ouais. Ça fait le morceau, quoi.
C'est minimal, mais c'est pas vide.
Ouais, dans la subtilité, quoi.
Je veux juste préciser ce que c'est un VST. C'est un instrument virtuel qu'on met sur les logiciels de production musicale. Voilà.
Ouais. On en a un petit peu parlé, mais du coup, tu as lancé un podcast.
Tout à fait.
Qui s'appelle Les 6 sons de la semaine. Est-ce que tu te souviens en fait comment est venue l'idée de ce podcast ?
Bah déjà, je suis un grand auditeur de podcasts depuis très longtemps. Depuis l'époque où personne n'écoutait des podcasts.
Avant que ça soit la mode.
Before it was cool, exactement. Non, ça veut dire que je suis très habitué à ce format. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai toujours eu un peu l'envie d'essayer, de m'y essayer. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de notre relation avec les amis et la musique. Et j'ai un peu ce truc où, quand tu dis à ton pote « Ah, écoute cette chanson, elle est vraiment trop bien », il fait « Ah ouais, t'inquiète, jamais il ne va l'écouter ». Du coup, j'avais envie de créer un format qui donne vraiment les clés en main pour écouter. Juste tu mets play, il y a les 6 recos qui se lancent, t'as pas à lancer Spotify, à chercher la chanson, à te casser la tête. Je te les mets, j'en parle un peu au début ou à la fin. Ouais. Et en fait, c'était vraiment pour forcer les gens, presque,
ouais,
à
bien
écouter
sûr.
Mes recommandations.
Oui, et puis en plus,
parce que
toi,
sinon,
d'autant
c'est
plus.
Difficile de les convaincre, en fait, de passer le pas et les gens n'écoutent pas les recos des autres.
Alors que là, au moins, ils peuvent lancer le podcast. Et en plus, toi, tu diffuses les morceaux dans leur intégralité la plupart du temps. Comment tu sautes le pas, vraiment ? Du coup, c'est...
C'est le confinement.
Ouais.
Je m'ennuie beaucoup. J'ai acheté du matériel d'enregistrement pour le son, pour faire de la musique à la base. Chose que j'ai très peu fait finalement, la production musicale. Mais du coup, j'avais ce micro et je me dis, allez, je vais tenter de faire un truc. Je vais essayer de faire une sorte d'émission de radio dans laquelle je vais parler un peu en faisant des lancements, à parler sur la musique et finir de parler au moment du drop de la musique. Des choses comme ça, un peu ce petit kiff d'animateur radio qui m'a toujours un peu fait kiffer quand j'écoutais la radio à l'époque. Grosse inspiration FIP, qui est une de mes radios préférées. On l'avait à Bordeaux et c'était trop bien.
Ouais.
Ça m'a...
Et c'est aussi sûr que niveau éclectisme
et je pense que,
musical,
voilà, j'admire leur éclectisme à FIP parce que, sauf le rap, ils sont toujours un peu allergiques au rap malheureusement.
Ouais, c'est pas trop, ça
à
peut arriver.
À part ça, c'est quand même admirable comment ils arrivent à enchaîner un morceau de classique puis de reggae,
je suis d'accord,
puis de pop, je sais pas, rwandaise.
Ouais.
et leur, trouver que ça hyper cohérent.
Et leurs programmateurs sont vraiment très forts. Enfin, donc voilà, c'était un peu ça, et donc ouais, j'ai voulu me lancer. Pas facile de lancer un truc sur internet avec sa propre voix. Déjà, c'est pas l'image, donc on va dire que c'est peut-être plus simple.
Ouais. Mmh.
Et est-ce que tu t'es posé, je me demandais, parce que moi je sais que j'ai pu la voir quand on a lancé le podcast, tu vois, un questionnement sur ta légitimité, tu vois, à parler de musique, mine de rien, prendre la parole, c'est pas.
À fond, ouais.
C'est pas rien en fait. De...
Grave.
Puis là, tu crées en plus tout seul. Moi, je sais que. Dans mon cas, Louise m'a mis en confiance, m'a un peu, tu vois.
Mais c'était effectivement pas facile. Au final, je me dis juste que je donne pas. Enfin, je suis pas en train de donner des leçons aux gens.
Oui, bien sûr.
Je suis juste en train de partager des choses qui me font kiffer.
Ouais.
Et donc, j'essaye d'éviter d'être là à lire une fiche Wikipédia sur l'artiste que je suis en train de présenter, mais plutôt de parler de mes sensations, de mes émotions, de pourquoi je pense que l'auditeur devrait l'écouter.
Moi, c'est ça ce que je kiffe, moi, dans ton approche.
Ouais.
C'est ce truc-là d'être vraiment dans le mood, quoi.
Oui, j'essaie de sortir du factuel pour plus être dans la sensation, puisqu'au final, c'est de l'art et c'est là que la musique est cool, quoi. C'est quand on ressent des choses, quand on vibre.
C'est difficile de les expliquer, je trouve.
Exactement.
T'as pas de mal à faire ça, justement, à rentrer dans ce truc.
J'ai tendance à beaucoup trop dire le mot cool. Immense truc de langage.
On a tous ce notre langage.
Non, c'est difficile un peu de faire parfois cette introspection, effectivement, pour savoir. Je sais que j'aime ce que j'écoute, je sais que j'aimerais bien que d'autres écoutent ça, mais comment je fais pour le véhiculer, comment je l'exprime, qu'est-ce qui m'arrive vraiment dans mon corps et dans mon cerveau quand j'écoute ça, quoi. Après, peut-être que c'est mon côté aussi musicien qui m'aide un peu à analyser parfois.
Ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas assez vite, c'était que tu étais très assidu sur les prods.
Oui.
Genre à,
oui,
à décortiquer un peu ce truc-là.
J'y prête attention, ouais. Effectivement. Ouais. Ouais.
Moi, peut-être le premier épisode que j'ai écouté, toi, je sentais tout de suite l'oreille musicale. C'est-à-dire, et parce que tu parlais un peu de musique brésilienne et de guitare, donc déjà, je sentais dans le vocabulaire que tu avais une certaine maîtrise là-dessus. Et oui, l'oreille vraiment attentive à comment était construit le morceau.
Ouais, ouais, clairement. Et puis, j'arrive à comprendre. En fait, si dans un morceau, t'as un petit break qui va passer en mineur. Tu veux dire, ah, c'est super beau et tout, c'est trop bien, mais t'arrives pas forcément à le verbaliser comme quand tu l'as pratiqué toi et tu sais qu'en fait, quel était l'artifice utilisé en musique, quoi.
Un peu ouais, c'est ça, déjà, derrière. Savoir que ça passe en mineur, comment tu bah, moi, déjà, sais vrai... quand tu fais pas, quand t'as jamais fait de solfège, tu vois.
Bah, bah, oui, moi, tu me dis ça, je ne suis pas capable même peut-être de comprendre du coup ce que tu me racontes, enfin, ouais. Tu vois, d'un point de vue. Voilà. C'est là, je pense, tout ce que tu racontais sur l'émotion et qu'est-ce que ça te fait ressentir.
Oui,
c'est d'arriver à exprimer, je pense, pour un public un tout petit peu plus large.
C'est ça.
Ton ressenti.
Donc c'est cool parfois de, ouais, d'avoir un peu ces clés. Encore, je suis vraiment pas un crack de la théorie musicale, j'ai pas fait de conservatoire ni de musicologie, mais j'ai quelques petites bases qui, je pense, et puis un peu avec ma pratique, qui me permettent un peu de comprendre quand.
Quand il se passe des trucs.
Le fait,
quoi.
Voilà, le fait de mettre un effet sur un son, le fait d'avoir composé d'une telle manière ou d'une autre, ça fait vibrer l'auditeur. Quoi.
Et donc, du coup, toi, tu travailles à côté de un travail dans la vie, est-ce qu'on a besoin de dire ce que c'est, je sais pas.
Je suis un ingénieur, pour faire un très vague.
Et du coup, on se posait un peu la question, du coup, tu vois, en termes de régularité et tout, comment c'est pour toi, est-ce que...
Bah alors, on peut constater que c'est très
ça
irrégulier.
Ça fait un moment que t'as pas senti.
Exactement, là, on est sur un mois et demi, j'ai très envie de m'y remettre parce que du coup... pendant les longs laps de temps où je sens rien, ben je continue d'écouter de la musique, donc je continue à découvrir plein de trucs à partager. Là, j'ai quelques playlists à faire. Ouais, effectivement, ben c'était pratique pendant le confinement parce que du coup, il n'y avait pas de sortie, pas de vie sociale. Donc le soir, j'étais chez moi et je pouvais me coucher un peu tard à faire ça. Là, depuis, ben, je recommence à vivre, etc.
Il y
a tout un emploi du temps à gérer, il y a peut-être des sacrifices à faire parfois. Que je fais pas forcément parce que c'est pas non plus.
Oui, c'est pas.
Parce qu'il y a la vie
c'est
à côté,
pas ta
quoi.
Vie, quoi. Oui, oui.
Voilà, il y a la vie à côté aussi, et donc faut essayer d'être heureux, finalement, dans la
bien
vie.
Sûr.
De trouver ses sources de bonheur et de trouver l'équilibre, quoi. En tout cas, j'ai envie de continuer de laisser la musique avoir cette place dans ma vie, quoi.
Ouais.
De pas uniquement en être auditeur, mais aussi être un peu actif. Et donc de partager, d'en parler avec vous là, c'est un vrai bonheur et c'est trop cool. Et
ça nous fait très plaisir aussi.
Parler de musique en fait, sachant que moi peut-être que dans ma vie sociale perso, j'ai pas forcément l'occasion de parler de musique avec d'autres passionnés, etc. C'est cool parfois de se mettre devant un micro et d'exprimer un peu ce qu'on a, de voilà, partager ce qu'on a à dire quoi.
Quand tu te dis tiens j'ai un épisode, comment se prépare ta sélecta? Est-ce que c'est un enfer? Est-ce que finalement ça se dessine assez vite? Parce que justement, on a déjà vanté ton éclectisme musical, du coup comment ça se prépare une playlist de 6 sons de la semaine?
C'est une bonne question. En fait, j'arrive souvent à retenir 6 morceaux sans trop de soucis, mais parfois je vais quand même en écarter pour essayer d'avoir pas de 3 morceaux de rap dans l'épisode ou pas que des chansons qui en américaines par exemple, des choses comme ça. Donc je vais essayer de faire un choix le plus éclectique possible. Parfois je vais changer d'avis au dernier moment parce que je trouve que dans l'enchaînement c'est un peu mollasson et on est sur 4 chansons déprimantes. Et donc j'essayais aussi de faire une sorte de progression dans le mood. Pas faire de choc trop... un peu à la manière d'un FIP en fait. Qui arrive à trouver des liens entre 2 morceaux de genres très différents.
Bien sûr.
Ouais, faire des transitions un peu cool quoi. Plutôt qu'enchaîner et dire sans transition, on va passer sur ça. Et passer sur un truc complètement différent qui va un peu choquer l'auditeur.
Ouais, c'est un kiff en soi en fait de faire la playlist.
À fond, trop bien. En plus, assez paradoxalement, je suis pas trop quelqu'un qui écoute en playlist.
Ouais.
C'est aussi parce que je pense, je chine beaucoup. J'ai tout en tête et du coup je sais quand je vais écouter tel album, mais je lance l'album.
Et d'ailleurs, par quel biais tu découvres des nouveaux titres? On parlait tout à l'heure un peu de YouTube, mais est-ce que t'es encore un gros digger de YouTube ou est-ce que t'as d'autres, je sais pas, des médias?
J'écoute le son d'après, déjà.
C'est gentil.
Très assidûment. En fait, c'est un peu partout, c'est-à-dire que si dans une série, si dans Atlanta, je vais entendre une chanson trop cool, ben, je vais écouter ce que c'est derrière. Si sur Twitter il y a un mec qui parle d'un rappeur à 500 vues, ben je vais essayer de regarder un peu. C'est tout le temps d'avoir cette curiosité en fait, dès que j'entends quelque chose, si ça me plaît bien sûr, essayer de creuser un peu. YouTube, ça va être dans certains genres assez particuliers, par exemple la city pop, là clairement l'algorithme il travaille à fond sur tout ce qui est musique japonaise et tout, puisque c'est très populaire. aussi sur certaines musiques électroniques où j'ai l'impression que YouTube a quand même une place.
Bah avec les chaînes spécialisées.
Quoi. Exactement, machin, avec des grands DJ sets dans lesquels on peut entendre des choses ensuite. Ça se fait naturellement. Oui. Je connais des artistes.
Oui, t'as pas go-to particulier quoi.
Ouais. Dès que je, parfois quand je vois un artiste qui me paraît pas mal, mais j'ai pas forcément le temps d'écouter, ou alors il a encore rien sorti sur les plateformes de streaming, je le suis sur Instagram. Mm. Et donc j'ai plein de follow sur Instagram d'artistes que j'oublie un peu, mais des fois je vois ah tiens il a sorti un EP, donc ça me fait penser d'aller écouter, ouais. Ou je vois qu'il passe en concert, ah ben cool, je vais passer faire un tour, des choses comme ça. Non, aussi il faut parler de TikTok qui,
Tu t'es TikTok head.
Ouais, je suis un peu dans l'addiction.
C'est bien. Alors parle moi, ça m'intéresse nous-en, parce que moi je suis absent de ce média là.
Bah alors c'est à la fois génial et à la fois horrible.
Oui, comme tout en fait.
C'est
comme...
un gouffre temporel, mais c'est aussi grave un moyen pour les jeunes artistes de se faire repérer. Il y a plein de success stories, plus ou moins artificielles ou alors naturelles, mais d'artistes qui ont juste posté quelques trucs sur TikTok pour qui ont ensuite méga percé, qui font des sons viraux, mais pas forcément. T'as aussi du coup toute une side de TikTok dans la recommandation de musique. Mmh. Où les mecs vont dire chaque jour je vais planter une chanson.
Ouais, bah ça m'intéresse parce que moi je me souviens que quand TikTok est arrivé, entre gros guillemets, hein, genre en tout cas pendant le confinement, où je me suis dit bon, je vais enfin me télécharger TikTok et me dire ok, je vais aller découvrir de la musique, ça va être cool parce que justement c'est la plateforme comme ça. Je me suis dit mais en fait j'écoute tout le temps les mêmes chansons parce que en fait c'est 15 secondes du même morceau, tu swipes vers le haut, tu l'écoutes 4 fois, t'es en mode j'en peux plus et voilà quoi. Et du coup je pense que je me suis un peu détachée de TikTok en me disant bah c'est pas vraiment ce que j'attendais.
En creusant il y a des choses qu'on peut trouver, ouais. Y a par exemple un gars je crois qui s'appelle Assorted Tapes,
okay.
Il fait des playlists qui sont hyper variées avec de la musique vraiment dans toutes les langues, assez néo-soul dans l'inspiration, enfin dans les genres que ça traite, mais vraiment des pépites sur lesquelles je serais jamais tombé sans.
Ah trop bien.
Et donc ouais, il y a des noms comme ça que je finis par suivre et puis.
Ouais, c'est ça, faut suivre les bonnes personnes
en
fait.
Ou alors juste en fait une vidéo lifestyle d'une meuf dans son appartement à New York, elle va mettre un son trop cool que t'avais pas entendu avant. Mais, ah ouais. Après voilà, faut avoir la démarche de rechercher ça dans son appli streaming et ensuite ajouter, ouais. Etc.
Moi c'est juste la manière de chercher sur TikTok que je comprends pas bien, tu vois, genre des fois je suis en mode bah je sais pas.
En fait faut pas chercher sur TikTok, c'est ouais. TikTok qui vient à toi.
Oui c'est ouais, ça. En
mais
fait,
c'est ça qui me stresse.
C'est assez bizarre comme.
Bah, tu dois passer du temps et en fait.
À fond. Mais c'est le mode de consommation de réseau qui est assez inédite parce qu'en fait on subit littéralement. C'est que le moteur de recherche est pas fait pour être utilisé et.
Mais moi c'est ça qui me stresse.
Ce qu'on me donne.
Du coup, comment est-ce que je fais pour avoir les trucs qui m'intéressent si à la base tu me donnes que des trucs qui m'intéressent pas?
Bah, ils calculent à quelle vitesse tu vas swiper ce qui t'intéresse pas.
Mais oh là là, j'ai tout swipé comme ça. Ça va être compliqué.
Bah, après, mais voilà, okay, moi ça me divertit au-delà de la musique, donc ouais. C'est aussi un moyen. Mais ouais, TikTok, ça devient très important. Et il y a aussi un côté négatif. Il y a aussi en fait une grosse pression de la part des maisons de disques et des labels sur les jeunes artistes, on va dire, allez, faut que tu te fasses un compte TikTok, faut que tu sois marrante, ouais. Faut que tu sois virale, invente-toi une histoire avec un ex, avec quelque chose comme ça.
Je pense qu'à mon avis, les maisons de disques, ils font leurs calculs, ils se disent, si tu fais ça, il y aura plus encore.
Mais du coup, ouais, j'avais vu que certains artistes en plaignaient le revers de la médaille de label qui mettait vraiment une pression à, au lieu de faire créer de l'art, en fait, on leur demande juste d'être des commerçants, des influenceurs. Ouais.
Puis il y a aussi l'aspect autre qui est maintenant, il y a des artistes qui font de la musique pour TikTok, quoi. Genre, notamment, je pense à Taiga, qui est l'exemple même du gars qui a fait tous ses derniers singles, c'est des morceaux TikTok, ça dure 2 minutes maximum.
Qui a dansé pour qu'il y ait une chorégraphie, une traîne dessus.
Très bien, écoutez, eh bien, je vous propose qu'on passe au dernier son de cet épisode. Passons au son d'après.
Eh ben écoutez, on va s'éloigner de TikTok, clairement. Parce que là, on change de période. La direction qui était assez claire, en fait, quand je pensais du coup à l'épisode qu'on préparait. Voilà, moi, les 6 sons de la semaine, ce qui m'a tout de suite plu. Bah déjà, tu critiquais ta voix, mais moi je trouve que tu as une très jolie voix, suave, qui est un beau fil conducteur dans l'épisode. D'accord. Mais surtout, merci du coup, beaucoup. On en a un peu parlé, c'est la qualité de tes playlists et ton éclectisme musical. Du coup, moi, il était assez évident que j'avais envie de partir dans quelque chose d'assez exotique. Je me suis un peu laissé porter par ce qui est venu à moi, et il se trouve qu'il y a pas si il y a une petite semaine, je tombe sur Twitter sur une recommandation. Tu sais, c'est la période où il commençait vraiment à faire très chaud à Paris.
Oui.
Je sais plus si c'était un média ou si c'était tout simplement un tweetos qui disait on est dans la parfaite période pour écouter cet album de Haruomi Osono. L'album s'appelle Pacifique.
Ah oui.
La pochette représente une île photographiée d'un avion. Tu vois, c'est bleu, c'est vert, c'est japonais. Je me dis, tiens, curiosité, je me lance l'album. J'entends des morceaux instrumentaux aux sonorités très exotica, exotica qu'on avait
la
déjà,
fameuse exotica.
La fameuse exotica dont on avait parlé avec Schkid. Bref, tu sens en tout cas dans la musique une influence pop, de la funk, du disco, du jazz, de la rumba. Bref, vraiment quelque chose de très riche musicalement. Et donc, comme souvent avec les albums, tu sais, j'ajoute un petit peu les morceaux un à un. Et en fait, en faisant ça, je me rends compte que cet album, ils sont pas un, mais trois derrière la composition de l'album. Les morceaux que j'ai likés sont tous du même mec, qui n'est pas du coup le fameux Haruomi Osono, mais un chanteur et guitariste, producteur, enfin compositeur japonais, qui s'appelle Shigeru Suzuki. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Alors l'album Pacifique me parle.
Ouais,
je crois que je suis tombé dessus sur YouTube, certainement. Ça fait partie des albums japonais qui tournent beaucoup.
Ouais, c'est ça, qui ont l'air d'avoir, en tout cas moi, quand j'ai un peu plongé là-dedans, qui ont l'air d'avoir une certaine cote.
Et c'est vraiment trop bien, ouais.
Tu sais, souvent dans ce genre de cas, je dis tiens, plusieurs likes sur le même mec, qu'est-ce que fait ce garçon en solo?
Pas de fumée sans feu.
Et voilà, et j'en parlais, c'est exactement ça. Du coup, je me suis lancé dans l'écoute du premier album. Et en fait, je me suis vraiment pris de passion pour cette musique-là. Je me suis dit, c'est parfait, c'est exactement ce dont j'avais envie d'amener. Surtout que vous allez voir, on parlait de musique brésilienne, on parlait de tout ça, on n'en est pas loin, c'est vraiment de la musique là qui va être parfait pour l'été à venir.
Trop bien.
Donc, je vous propose qu'on écoute le morceau Lady Pink Panther, extrait de son deuxième album qui s'appelle Lagoon, sorti en 1976. On écoute ça et puis on va reparler un petit peu de Shigeru Suzuki. Shigeru Suzuki avec Lady Pink Panther. Qu'est-ce qu'on en a pensé par ici?
En écoutant ça, je ferme les yeux, je suis vraiment 14h plein soleil au bord d'une piscine. Et vraiment, voilà, il y a ça qui passe en fond un peu sur les enceintes autour de la piscine. Et c'est parfait, quoi.
C'est tout doux, quoi. Ah ouais, moi vraiment. J'aime bien, il y a vraiment, tu sais, ce côté très chanson peace. Quoi.
Ouais, il y a rien qui agresse l'oreille.
Je suis d'accord. En plus, tu parlais de piscine, même le rythme de la chanson, ça pourrait aller avec le rythme des petites vagues, des vaguelettes de la piscine.
C'est vraiment ça.
Non, et puis j'aime bien. Il y a un petit côté où je trouve que c'est quand même, ça rentre bien dans la tête. De rien. Toi, t'aimerais chanter le refrain avec lui.
Un peu, ouais.
Si tu savais chanter
si
japonais.
tu peux avoir trois mots déjà, c'est pas mal.
On a le Lady Pink Panther, voilà. C'est pas mal.
Et après, il dit kawaii, donc c'est déjà 4.
Toi, ça a parlé aussi, Louise ?
Ouais, grave. J'aime bien. Je trouve que c'est, en vrai, c'est quand même assez riche en termes d'arrangement. Je trouve qu'il y a plein de.
Ouais, c'est sophistiqué.
Et les Japonais sont trop forts là-dessus. En fait, ils ont souvent fait cet amalgame de plein d'inspirations différentes.
Ouais.
Que ce soit encore aujourd'hui, en fait, dans leur pop à eux, ils ont toujours des progressions d'accords qui sont un peu plus riches que ce qu'on a nous en Occident. Et c'est. Ouais, c'est vraiment ce qui caractérise. Et donc là, ouais, on peut voir dans les arrangements, dans la production, c'est hyper propre.
Tu vois, on parlait de musique brésilienne, je pense qu'on sent
clairement,
c'est les influences
samba,
là-dedans. Tout à fait.
Ouais.
J'ai été agréablement surpris parce que j'avais pas fait attention, mais vraiment quelques minutes avant que tu nous rejoignes pour enregistrer l'épisode, je regardais à nouveau les différents tracklists que tu avais fait sur les épisodes et j'ai été agréablement surpris en fait, de voir que tu avais déjà parlé de Tatsuro Yamashita.
Oui.
Qui est en fait le troisième larron. On parlait de l'album Pacifique, c'est le troisième larron en fait sur l'album.
Ah, ok.
Donc je me dis, tiens, vraiment.
Le lien est fait.
Ouais, le lien est fait. C'est de la musique ou. Parce que tu parlais aussi de City Pop. Bon, là, on n'est pas sur de la
City Pop. La City Pop,
bah, la City Pop c'est. Alors, dis-moi si je me trompe, hein, mais moi, non, de ce que j'ai pu creuser, c'est vraiment toute une musique pop. C'est la pop japonaise des années 70-80.
Ok, ouais,
j'ai l'impression. Voilà.
On a Plastic Love qui est un peu. La base entre eux, donc il y a un peu de disco dedans, un peu de funk.
Tout à fait.
C'est assez jazzy, mais en même temps, c'est entraînant. C'est un peu des liens avec ce qu'on a écouté là.
Ouais.
Peut-être un peu moins samba.
Okay.
Ouais, c'est ça. Ouais, et que tu retrouves dans la couleur musicale que tu peux retrouver sur quand même pas mal de choses qui se faisaient aux États-Unis à cette période-là.
Ouais, exactement.
Okay. T'es pas perdu d'un point de vue.
Juste en japonais, quoi.
Voilà.
Okay. Et c'est des même au-delà de ça, les compositions sont vraiment. Enfin, il y a.
Beaucoup plus.
C'est trop bien.
Ouais.
Okay. J'ai pas envie d'être objectif.
Simplement.
C'est juste trop bien.
Non, c'est trop bien. Et je trouve que tu tutoies vraiment ces très bonnes chansons des années 80. Sauf qu'effectivement, nous, on les connaît pas. J'ai été dans les recherches, parce que du coup, moi j'ai totalement plongé tu vois, là-dedans. J'ai découvert par exemple récemment que The Weeknd, sur son dernier album, il y a tout un morceau, c'est une reprise en fait.
Ah
c'est
oui
presque une reprise. Je pense que les paroles, il les a changées, tu vois, il les a adaptées à lui, mais toute la composition, justement très 80s, tu sais, dans son dernier album,
oui,
et bah là en fait, ça, voilà, c'était un album d'une nana dont je n'ai pas le nom là. Le morceau s'appelle Midnight Pretenders de Tomoko Aran et c'est le morceau Out of Time de The Weeknd.
Okay. En fait, sur YouTube, il y a quelques playlists City Pop qui sont vraiment à des millions de vues. C'est depuis 3-4 ans, c'est un truc qui est vraiment redevenu à la mode d'écouter la musique japonaise des années 80. Et donc, dans ces quelques playlists qui ont beaucoup de vues, on a une vingtaine, trentaine de chansons qui tournent, c'est un peu tout le temps les mêmes. C'est pour ça qu'il y a aussi un travail pour un peu aller au-delà.
Ouais.
Parce que dans ces playlists-là, c'est des gens qui se cassent pas la tête, s'ils vont mettre les plus connus et tout. Et celle-là, elle en fait partie, donc c'est vraiment parmi les tubes de ce genre. Et
D'accord.
Je pense que tous ceux qui ont un peu écouté connaîtront ce début.
Certainement,
de chanson,
moi
quoi.
J'avoue
The
que
Weeknd, il a
je découvre un peu.
Il a bien raison. Hein.
Il a certainement
YouTube.
Écouté ça, bah, c'est sûr. Moi, je sais que je connais un ou deux DJ où je sens qu'ils ont vraiment cet œil aiguisé sur la musique japonaise. Peut-être pas nécessairement d'ailleurs que City Pop. Plus je découvre de la musique, plus je me rends compte que la musique japonaise, en fait, il y a vraiment énormément de choses à aller diguer de très intéressant.
Ouais.
C'est pas la première fois d'ailleurs que je ramène un artiste japonais ici. Et oui, et notamment, je lisais dans les quelques articles qui parlaient de City Pop ou quoi, effectivement, comme tu disais, YouTube a beaucoup aidé à faire ressortir tous ces morceaux-là, quoi. Et non, c'est vrai que c'est trop bien. Moi, pour en revenir aux morceaux quand même qu'on écoutait, qui est du coup plus bossa, moi, ce que j'aimais bien aussi dans ce morceau-là en particulier, et cet album en particulier, Lagoon, il y a vraiment une approche très bossa,
ouais.
Mais il y a aussi tout un côté très smooth jazz, samba jazz, tu vois, et ce jazz du coup très, très années 70.
Easy listening.
Ouais, et en même temps, moi, ça me rappelle toute une période aussi du cinéma français en particulier, où tu sais, les bandes-sons étaient essentiellement faits avec du jazz, quoi.
Mmh,
du coup, moi, ça me ramène aussi dans ces périodes-là. Alors, moi, ça n'a rien à voir en termes de film. Tu vois, moi, je crois que le film que j'ai le plus vu de cette période, ça doit être Les Aventures de Rabbi Jacob. Mais, donc là, c'est un saut. Mais voilà, beaucoup de films de cette époque-là étaient faits avec cette sonorité très jazz. Et moi, je pense que c'est aussi du coup ça où.
Ah oui, c'est la couleur de l'époque, quoi.
Voilà,
c'est
et qui me transporte quelque part, que j'adore. Puis, c'est pas la première fois que j'en parle, le fait d'entendre chanter en japonais, ça décale ton œil sur ce que t'es en train d'écouter, et ça fait du bien, quoi. Ça vient renouveler, je pense, une certaine...
Et ça peut aussi aider à se concentrer sur la musique, au-delà des paroles.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de gens qui ont cette approche de la musique où ça va être du texte, et s'il n'y a pas de texte, c'est pas très intéressant.
Ouais.
Mais là, ça peut aider à justement dire « Ah tiens, j'entends plus la basse, parce qu'au final, comme je comprends pas ce qu'ils disent, je vais pas trop me concentrer sur,
oui, c'est
sur
ça,
le chanteur. »
T'es pas spécialement en train de te dire « Est-ce que les paroles sont intéressantes ?»
Et d'autant plus pour une musique de fond... autour de la piscine, j'y reviens.
Ça vous a déjà fait ça aussi, moi je redécouvre parfois des tubes, d'ailleurs pas forcément des tubes, mais justement de la musique de ces décennies-là, 70-80,
ouais.
Mais en français, où dans ton écoute d'auditeur, tu sais, en fait tu n'entendais que les paroles, et tu ne voyais pas du tout toute la complexité musicale qu'il y avait derrière.
Ouais.
Par exemple, moi, l'exemple qui me vient, c'est Jean Fromageau qui anime Confine-nous-tout, qui avait fait un épisode spécial sur Gilbert Montagné.
Okay.
Et moi, Gilbert Montagné,
ouais,
typiquement, tu vois, tout à l'heure, on parlait de dénigrer la variété française, machin. Non, bah, alors vraiment, je suis en mode, moi, les seuls morceaux que je connais, c'est Le Soleil des Tropiques, j'en peux plus. Et en fait, en vrai, quand t'écoutes Le Soleil des Tropiques sans écouter les paroles, ça reste un morceau ultra catchy. Il y a des bongos, des machins. Enfin, tu sais, genre, en vrai, ils sont fait chier sur les arrangements et tout. Alors après, j'en peux plus de ce morceau et je pense que jamais je serai en mode vraiment trop bien d'écouter Le Soleil des Tropiques. Mais du coup, Jean Fromageau, il avait fait tout un épisode de Confine-nous-tout sur Gilbert Montagné en disant, en fait, allez diguer le reste de la discographie de Gilbert Montagné parce qu'il y a des trucs chambés, parce que c'est un bête de musicien, en fait. Tu
parce qu'en fait, certainement que les morceaux, du coup, que tu n'as pas entendu, qui ne sont pas les tubes, et bah ouais, tu vas te dire bah en fait c'est juste de la bonne variété bien foutue musicalement quoi.
Mais c'est ça qui est intéressant en fait, je trouve aussi dans notre manière de voir la musique, les biais cognitifs qu'on a en fait à chaque fois, c'est de se dire genre, moi je sais que y a tout un pan de la chanson française que j'ai jamais écouté et que instinctivement j'aurais du mal à me dire ok bah je vais aller mettre play sur un album de Gilbert Montagné.
Oui, c'est vraiment une démarche
dure, hein.
Donc ça, c'est quand même trop cool de dire je connais un son d'Hubert Montagné,
que personne connaît, vous allez kiffer de ouf.
Bah moi j'ai eu ça, moi j'ai quelques copains, Roberto pour ne pas le citer, qui Coucou. Peut être ce pote ou qui va, il va être un peu tard le soir et là tout d'un coup il va balancer un morceau de variété français un peu inattendu.
Ouais.
Et où justement, parce que ça fait des années que tu l'as pas entendu, voire même que tu connaissais pas vraiment, ou tu connais le chanteur mais tu connais pas ce morceau en particulier, et bah là moi je me redécouvre des morceaux, je fais mais en fait quand même c'est
c'était mais en fait,
bien.
Ce que je trouve intéressant en fait, c'est d'aller chercher justement des artistes qu'on connaît et dont on connaît les tubes et tout, mais dont on connaît pas le reste de la discographie. Ouais. Parce que tu vois, dans le son d'après, ça nous arrive de ramener des trucs, enfin moi ça m'est arrivé plein de fois de ramener des trucs random, genre Diva, La Nuit, qui est un morceau que j'ai découvert dans un DJ set de Fol Amour. Bon bah en fait, ils ont rien fait d'autre quasiment, tu vois. Ouais. Alors que un Gilbert Montagné, un Claude François, même Claude François, je me souviens, j'ai des potes qui faisaient des émissions spécifiques. J'ai un copain qui faisait, bah j'en ai déjà parlé je pense dans le son d'après, qui fait une émission qui s'appelle Boom Bomo. Et en fait à l'époque, il faisait des émissions spéciales sur des chanteurs donc francophones des années 60 aux années 80, donc timeline hyper précise.
Ouais.
Et en mode, on parcourt une heure la discographie de Claude François, Barbara, machin. Et donc du coup, là, t'as le temps de te poser et de te dire, ok, bah en fait, Barbara, c'est pas que L'Aigle Noir. Claude François, c'est pas que Belle, Belle, Belle et Si j'avais un marteau. Du coup, t'as vraiment ce truc d'aller chercher la discographie complète.
Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut pas bouder la musique pop.
Ouais.
Et la variété, par exemple, parce qu'en fait... Quand on est le chanteur le plus populaire du pays à son époque, ben en fait on a les meilleurs producteurs derrière, les meilleurs musiciens.
C'est pas un hasard,
on a des studios de malades et en fait c'est là que vont avoir les meilleurs arrangeurs et en fait c'est juste de la bonne musique quoi.
Ouais.
Et c'est là que c'est intéressant, je pense, d'aller écouter les albums de Gilbert Montagné ou comme aujourd'hui d'écouter The Weeknd, désolé. Ouais.
Ou Dua Lipa, tu vois. Genre,
ou Dua Lipa, voilà, carrément. Ouais. Parce que derrière, en fait, t'as des armées de mecs trop forts, trop bons, avec des DA qui sont très forts. Et Dua Lipa en elle-même est charmée.
Oui, c'est ça. Mais Dua Lipa, The Weeknd, ils sont produits par les mêmes personnes. Hein. Max Martin, il fait la pop depuis 20 ans ou 30 ans.
Oui, et puis en général, ces mecs-là, en fait, viennent synthétiser. D'une certaine manière,
plein de trucs.
Leur époque, voilà, leur époque, tiens, on va aller choper le meilleur dans ce genre musical-là, on va aller choper ça, et bam, ça fait des chocs à pic. Avant qu'on oublie, moi, je vais tout de suite vous proposer les petites recommandations quand même. Du coup, si vous avez aimé ce que j'ai diffusé là, je vous propose évidemment d'écouter du coup l'album Lagoon, qui est son second. C'est très dans ces sonorités-là. Et là, je pense qu'avec l'été qui arrive... Franchement, je pense pas me tromper, ça match.
Ça passe bien.
Nickel. Dans ce que j'ai pu écouter aussi, je vous recommande le premier, parce que le premier album, il y a une approche un petit peu plus rock, un petit peu plus Beatles, par moment. Et d'ailleurs, je l'ai su après coup, mais l'album a été enregistré aux USA, et avec des musiciens comme Carlos Santana et Sly and the Family Stone.
Ah.
Donc voilà, tu sens que...
Du beau monde.
Ouais, du beau monde, et vraiment musicalement, j'ai trouvé ça juste chambé. Et c'est pareil, alors...
C'est vraiment intéressant, ça, je trouve.
T'es sur une autre approche... Enfin, t'es sur une autre approche... Non, justement, t'es sur de la musique qui parle. Tu vois, quand je parlais des Beatles, voilà. Tu me changerais les voix, je serais pas choqué de dire, ah tiens, okay. Oui. Donc, vraiment chouette. Et Là, je vais faire un contre-pied, mais il se trouve que, bah voilà, dans la période Japon, il y a une petite semaine, je découvrais un film magnifique. Donc, je vais vous faire une petite reco ciné.
Super.
Un film qui s'appelle Tel père, tel fils, d'un réalisateur qui s'appelle Hirokazu Koreeda. C'est un très grand metteur en scène, en tout cas. Selon
dans
moi,
ton cœur.
Ouais, dans mon cœur japonais. Et là, je crois que je viens de voir vraiment l'un de ses meilleurs films. Ça parle de paternité. C'est magnifique. J'ai pas trop envie de vous le teaser. Si, quand même, bon, pour l'histoire, c'est un peu c'est le même point de départ que
La vie est un long fleuve tranquille.
Voilà. Donc, c'est-à-dire des parents qui découvrent, là, leur petit garçon vient de faire leurs 6 ans et ils découvrent que les enfants ont été échangés à la maternité. Et puis, pareil, il y a un truc de.
Que vont-ils faire ?
Que va-t-il se passer ? Mais c'est bon, c'est pas du tout le même ton que La vie est un long fleuve tranquille. On est quand même plus dans le drame.
On pleure.
On pleure, mais d'émotion. C'est-à-dire, c'est pas juste. Ouais, c'est juste que.
C'est pas des violons.
Non, exactement. Meurent, c'est vraiment juste une très belle écriture, plein de sentiments hyper. Hyper puissant et vraiment un gros coup de cœur. Et vu que voilà, ça tombe dans la période où je me retrouve à écouter de la musique japonaise, ça fait un petit pas de côté, mais je pense que c'est
en salle ou c'est sorti il y a longtemps ?
Non, c'est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. Ça avait obtenu le prix du jury, je crois, à Cannes.
Et tu sais où est-ce qu'on peut le voir ?
On peut le voir, je crois, actuellement sur Canal, sur la plateforme MyCanal.
Ok.
En tout cas, moi, je l'ai vu comme ça.
Trop bien. Je vais voir ça. Ça m'attire beaucoup.
Pour revenir à toi, du coup, dans ta pratique aussi, donc, tu fais du podcast, de la guitare. Et tu disais un petit peu, du coup, en off, même pas en off, ou au début, là, peut-être de l'épisode.
Au début de l'épisode, ouais.
Tu disais que tu avais peut-être l'ambition de travailler dans la musique. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on voit tout ce que tu peux faire.
Oui.
Autour, les concerts que tu vas voir. Est-ce que tu as déjà eu envie de travailler dans la musique ? Comment même ? Ou de mixer de...
À fond, non, j'aimerais bien, en fait, parce que là, je suis au stade de ma vie où voilà, j'ai fini mes études il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Depuis, je travaille un taf d'ingénieur, tout ce qu'il y a de plus normal, mais au final, j'ai cette passion qui vraiment est de plus en plus envahissante.
Mm-hmm.
Et je vois qu'il y a moyen d'y entrer, d'y faire des carrières très sympas, de pouvoir... En fait, j'adorerais chaque matin...
D'être cohérente avec ta passion, quoi.
Exactement, et travailler en accord avec, et être motivé chaque matin pour... bosser dans un truc avec des gens qui partagent ma passion, qui sont... Donc ça serait vraiment un plaisir, je suis un peu en train de rechercher, mais faut que je réfléchisse, peut-être par des projets comme je l'ai fait actuellement, tu vois, en indé dans un premier temps.
Mm-hmm.
C'est des choses... C'est vraiment quelque chose que j'aimerais dans... à terme, quoi. Je me vois pas...
Tu sais pas encore exactement où...
Exactement, c'est... La vie, c'est des rencontres, des opportunités. Non, mais c'est vrai, quoi.
Ouais, c'est vrai, de ouf.
Et finalement, je sais pas où je serai dans 15 ans, dans quel pays, dans quelle ville.
Ouais. Et tu parlais tout à l'heure du fait que t'avais acheté pendant le confinement, justement, de quoi faire de la prod, etc.
Ouais.
Et du coup, est-ce que t'aurais des ambitions aussi de faire des projets musicaux à long terme, tu
vois, genre, j'aimerais. Ouais. J'ai toujours eu cette envie et j'aimerais vraiment bien m'y mettre. Peut-être cet été, on verra. C'est quelque chose qui m'a vraiment, qui me tient à cœur parce que je pense à un bon moyen quand on est seul, j'ai pas forcément de groupe de musique avec qui jouer, avec qui me produire ou quoi, de renouer un peu avec la musique. Là, ça fait quelques mois que j'en suis assez distant de faire de la musique.
Ouais.
Au-delà de la technique, j'ai quand même plein d'influences qui peuvent faire que je peux avoir quelque chose d'intéressant à apporter.
Ouais, bien sûr.
Parce que moi, c'est ce que j'aime quand je découvre, je sais pas, un nouveau rappeur, il va mélanger la drum and bass et la bossa dans son dernier son, et je trouve ça génial. Et j'aime bien tous ces mélanges d'influences. Et je me dis qu'avec tout ce que j'écoute, j'ai aussi envie
de faire des trucs,
j'ai aussi envie de commencer à fabriquer des trucs, bricoler, peut-être juste m'entraîner en fait pour le kiff.
Ouais, faut l'exercice de voir ce que ça donne, quoi.
Sans nécessairement avoir d'ambition, puisque ça reste vraiment un plaisir et je pense que dès qu'il y a de l'ambition, il y a moins de plaisir et il y a moins de...
Il y a une régularité, il y a une...
Rigueur.
Une rigueur à avoir qui est intéressante à aller tester, de voir est-ce que quand je passe dans ce mode-là, est-ce que je m'amuse toujours autant ?
C'est ça, à fond. Il faut vraiment une rigueur et une discipline en fait, qui est difficile à atteindre. Donc c'est pour ça. Bah c'est en tout cas c'est un projet. Je pense pas arrêter la musique de ma vie, quoi.
Ouais.
Et effectivement, je pense que pour tout musicien, c'est un peu une fin, un objectif à la fin de finir par créer des choses et si ce n'est même les reprendre, les arranger, s'approprier des chansons, des standards, des choses comme ça reste hyper intéressant à faire. Et surtout très amusant. C'est ce qui compte.
Mais c'est, oui, c'est ça. S'amuser. C'est qu'on, c'est ce qu'on oublie de temps en temps. C'est le kiff dans la musique, quoi.
Que le kiff. Ouais. C'est le projet.
Bah écoute, moi je trouve que c'est.
C'est une excellente conclusion.
Ouais, c'est une belle manière en tout cas de glisser vers, voilà, vers la fin de l'épisode.
Merci à vous.
On a bien discuté. Avant qu'on cite quand même, tu l'as un peu dit au début, mais où est-ce que les gens peuvent voilà, te retrouver s'ils ont envie de suivre un petit peu ce que tu fais ou,
Twitter, Instagram, @yannissier et mon podcast, bien entendu. Les 6 sons de la semaine avec
des nouveaux épisodes bientôt.
Ah oui.
Ouais, ouais, non, ça arrive lourd. Non, là, c'est. Je vais avoir du temps, j'ai des congés qui arrivent, j'ai l'été. Le rythme. Je vais essayer de reprendre une petite saison estivale.
Trop bien.
J'ai plein de choses cool à partager.
Ah, on a.
Allez, bah moi
je. Pour avoir des chansons à écouter au bord de la plage, au bord de la piscine.
Très bien, c'est une très bonne idée. On sera là pour écouter.
Ou alors au travail, si jamais on travaille cet été.
Aussi.
Force.
Trop bien. Petit blabla de fin, vous avez l'habitude, chers amis, chers auditeurs et auditrices, et si vous n'avez pas l'habitude, bienvenue. Écoutez, les 4 morceaux que vous avez entendus dans cet épisode vont être disponibles dans la playlist Le Son d'Après, donc qui est mise à jour à chaque nouvel épisode, simplement, voilà. Sur les plateformes de streaming. Sinon, on a pas mal cité de noms d'artistes, de noms d'albums, etc. Ça sera dans les notes du podcast, donc il y aura un petit lien vers un Google Doc, car en général, sur les épisodes avec les invités, on cite énormément de choses. Et puis, si vous avez une petite seconde, vous pouvez vous abonner à ce podcast, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour nous soutenir et aider au référencement du podcast. Ça fait toujours plaisir.
Et puis ouais, venez nous suivre aussi du coup sur Twitter et Instagram, pareil, voilà. Si vous voulez suivre un petit peu l'actualité du podcast et nous envoyer des petits messages, voilà, on échange, on aime bien vous répondre aussi et voir ce que, voilà, avoir tout simplement vos retours.
Oui, et Yanis, on a une dernière question pour toi.
Oui.
La fameuse dernière question de la fin d'enregistrement du son d'après, c'est quel est le morceau d'après, justement ? Quel son tu vas mettre en sortant de cet épisode ? Quel serait le mood ?
Je pense que je vais écouter une chanson qui m'a été recommandée aujourd'hui. La personne qui m'a envoyé ça m'a dit « Quand j'écoute ça, j'ai envie de faire la bise à Jul. »
Oh, ça m'intrigue grave.
Et donc, c'est une chanson de Jul qui est vraiment trop bien encore, une chanson de quotidien, très simple. Elle s'appelle « Parfum quartier ». Et dans cette chanson, il dit notamment, je crois que c'est à peu près ça, il dit « Je fais des photos avec des mamies. »
Oh.
Et je trouve ça génial. On voit vraiment, c'est le Jul sincère, authentique.
Ouais. Oui, qui se prend pas pour qu'il n'est
qui
pas.
Qui se prend pas la tête, qui raconte son quotidien. Et en plus, le morceau est vraiment cool, quoi.
Trop bien.
C'est sur un album gratuit, en plus. Il date pas d'hier, le morceau.
Ok.
Et voilà,
bien.
Parfum et quartier de Jul.
C'est formidable.
Et le soleil se couche, ça va être très bien pour écouter ça en repartant.
Merci encore, Yannis, c'était trop cool.
Merci à vous, c'était vraiment un honneur. Trop bien.
Plaisir.
Trop gentil.
Plaisir. Et puis nous. Du coup, Louise, on se dit
à dans deux semaines.
Il est temps que je vous dise au revoir, les amis. Je suis content, je fais des toffes avec des mamies.
J'essaie de rester moi-même, même si dure est la vie que je mène. Je t'en veux pas, l'erreur est humaine, mais prends pas la confiance quand même. Moi, j'essaie de rester moi-même, même si dure est la vie que je mène. T'en veux pas, l'erreur est humaine, mais prends pas la confiance quand même. Tu dans la Clio, j'écris mon texte dans le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. J'suis dans la Clio, j'écris mon texte dans le quartier. L'odeur de la beuh mélangée au parfum quartier. J'ai deux bras, deux jambes, j'm'en suis sorti seul avec le deux poteaux au ciel. J'pense à toi quand je chante.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.